Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et on passe au titre du journal de ce mardi. Les services d'urgence se préparent à des conditions extrêmes dans tout l'état du Victoria, des incendies menaçant des habitations alors que les températures devraient atteindre 45 degrés à Melbourne et Geelong et 49 degrés à Mildura. En France, les députés votent un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Israël a récupéré la dépouille du dernier otage à Gaza, celle du policier Ran Vili, retrouvé dans un cimetière du nord du territoire. Et on passe au journal. Les services d'urgence se préparent à des conditions extrêmes dans tout l'état du Victoria, des incendies menaçant des habitations alors que les températures devraient atteindre 45 degrés à Melbourne et à Geelong et 49 degrés à Mildura. Quatre alertes d'évacuation sont en vigueur, notamment à Dargo, Walva, Longwood et Carlisle River, et des milliers de personnes sont concernées. Les populations touchées sont invitées à suivre les alertes et l'évolution de la situation via l'application Vic Emergency, le site web de la Victorian Country Fire Authority et les bulletins des radios communautaire. Le maire de Colac Otway, Jason Schramm, a déclaré sur Channel 9 qu'un changement de direction du vent rendrait les incendies imprévisibles.
But the SES have been door knocking a lot of areas in the Otways, telling people to leave for last night. So we just hope everyone has got their bushfire plan ready and left if they've been able to do so.
De l'autre côté de la frontière, en Nouvelle-Galles du Sud, à Broken Hill, on prévoit 47 degrés, un autre record de chaleur. La canicule continue de sévir dans une grande partie du sud-est australien et l'Australie méridionale subit également une nouvelle journée de température extrême. Ces conditions alimentent un risque accru d'incendie de brousse dans le sud de l'Australie et 6 feux font déjà rage dans l'état du Victoria. La chef du Parti libéral, Susan Lee, est sous pression suite à la récente scission avec le Parti national au sujet des lois sur les discours haineux. Le Parti national a déclaré qu'il ne réintégrerait pas la coalition à moins d'un changement de chef après la démission de plusieurs députés ce mois-ci. Ces derniers déploraient le manque de temps pour examiner correctement un projet de loi de réforme des discours haineux qui a par la suite été adopté par le Parlement. Trois sénateurs du Parti national ont présenté leur démission à la chef de l'opposition, Susan Lee, démission qu'elle a acceptée avant que 8 de leurs collègues ne démissionnent en signe de protestation. Des informations contradictoires circulent quant à la possibilité d'un changement de direction imminent au sein du Parti libéral. Les personnalités politiques conservatrices Angus Taylor et Andrew Hastie sont cités comme de possibles candidats à la tête du parti. Le Parlement fédéral reprendra ses travaux la semaine prochaine. Les autorités du Queensland envisagent d'abattre davantage de dingos sur l'île touristique de Cagari cette semaine. Cette décision fait suite à l'autopsie d'une femme qui s'est noyée après avoir été mordue par des dingos. Le corps de la Canadienne Piper James, une backpacker, a été retrouvé lundi dernier sur la plage de Cagari, entourée d'une meute de ces animaux sauvages. L'autopsie a révélé que la jeune femme de 19 ans avait été mordue mais que son décès n'était pas dû à une attaque de dingo. Les 6 dingos impliqués ont été euthanasiés par mesure de sécurité publique. Cette décision a suscité l'indignation de certains propriétaires traditionnels qui réclament l'interdiction d'accès à certaines parties de l'île. En France, les députés votent un texte interdisant les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ce projet de loi intervient un mois après que l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire aux jeunes de 15 ans de posséder leur propre compte sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, YouTube, Snapchat et Instagram. Israël a récupéré la dépouille du dernier otage à Gaza, celle du policier Ran Vili, retrouvé dans un cimetière du nord du territoire. Israël a déclaré qu'il autoriserait une réouverture partielle de Rafah seulement après la récupération du corps du policier. Le Hamas avait précédemment affirmé avoir communiqué l'emplacement de sa dépouille et avoir rempli toutes ses obligations conformément à l'accord de cessez-le-feu. Bien qu'un cessez-le-feu ait été conclu en octobre dernier, Israël a insisté sur le fait que tous les otages devaient être libérés et les dépouilles des personnes tuées retrouvées avant d'assouplir les restrictions frontalières, la réouverture étant limitée au passage des personnes. Les habitants font toujours état de violences persistantes et d'une grande incertitude, décrivant leur quotidien comme dangereux. L'administration Trump impute la mort de civils abattus par les forces fédérales américaines à la résistance des dirigeants démocrates au rafle d'immigrés. Le décès d'Alex Pretty, infirmier en soins intensifs, fait l'objet d'une enquête menée conjointement par le département de la sécurité intérieure et le FBI, tandis que les services des douanes et de la protection des frontières mènent leur propre enquête. La porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré aux journalistes que les dirigeants démocrates de plusieurs villes, dont le Minnesota, ont bravé la loi fédérale sur l'immigration et sont responsables du chaos actuel.
As a result of that defiance, two Minnesotans have now tragically lost their lives on the streets of Tim Walz's state. It is President Trump's hope and wish and demand for the resistance and chaos to end today. That's why President Trump spoke with Governor Walz directly this morning, and he has outlined a clear and simple path to restoring law and order in Minnesota.
Et l'État de Minnesota réclame la suspension de l'opération ICE des DICE. Marine de la Moissonnière pour Radio France Internationale.
L'État du Minnesota, mais aussi les villes de Minneapolis et de Saint-Paul ont saisi la justice quelques jours après la mort de René Goude. La police de l'immigration bafoue la loi et la Constitution, estime le procureur général de l'État. La présence de 3000 agents d'ICE dans le Minnesota constitue une occupation illégale et dangereuse qui a pour seul but de punir des opposants politiques et de marquer des points auprès des partisans de Donald Trump. Voilà ce que soutiennent les avocats de l'État. État et des deux villes. La mort d'Alex Pretty leur a donné un argument supplémentaire. D'après le New York Times, ils ont écrit au juge samedi soir afin de réitérer leur demande. Cette opération doit cesser au plus vite avant qu'une autre personne ne meure, ont-ils expliqué. En face, le président américain ne cesse de défendre les agents d'ICE qui ne font que leur boulot, un boulot nécessaire pour réduire la criminalité et faire respecter les lois sur l'immigration. Deux promesses électorales du président américain, c'est la ligne de défense de l'administration Trump. Un autre État démocrate, l'Illinois, a lancé une procédure juridique semblable. L'affaire n'a pas encore été tranchée.
Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine doivent se rencontrer à nouveau dimanche prochain après avoir abordé des questions militaires lors de pourparlers qui se sont tenus ces derniers jours à Dubaï. Si les responsables ukrainiens et russes ont accepté le principe d'un compromis proposé par les États-Unis, les deux pays belligérants divergent fondamentalement sur la nature de cet accord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que certains points devaient être préparés en vue de cette prochaine réunion et a réaffirmé que la guerre se poursuit uniquement à cause de la Russie.
Real results from diplomacy are needed, so that there is no impression that the Russians are also using the negotiation process for a very cynical and brutal purpose, pushing back new pressure measures against Russia that could actually work.
En Australie, à nouveau, le Premier ministre Anthony Albanese affirme que son voyage au Timor-Leste cette semaine est l'occasion de célébrer les liens qui unissent les deux pays. Il se rend au Timor-Leste via Darwin pour une visite de 3 jours à partir de ce mardi, au cours de laquelle il s'adressera notamment au Parlement. Anthony Albanese souligne l'importance de la relation bilatérale.
Our relations with our neighbours have never been more important than they are today. And Timor The relationship goes back a long way. But one of my mentors, Tommy Wren, was captured by the Japanese and became a prisoner of war on Timor in 1941. And what happened then was that the Timorese helped out so many Australian diggers during that moment of crisis during the Second World War.
Ahmed Al-Ahmed, héros de l'attaque de Bondi Beach, a été présenté des clés de la ville de Canterbury Bankstown à Sydney en reconnaissance de son acte héroïque consistant à désarmer un tireur lors de l'attaque survenue le mois dernier sur la plage de Bondi Beach. Il a été honoré lors de la cérémonie de remise des prix et de citoyenneté organisée par le conseil municipal à l'occasion de la fête nationale australienne hier, où il a reçu de nombreuses ovations du public.
We are Australians, as I said before. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi.
Ahmed Al-Ahmed a également été nommé héros local de l'année par le Conseil pour son acte de bravoure et pour ses efforts pour promouvoir l'unité. Le ministre fédéral de l'Éducation a déclaré soutenir une proposition visant à rendre obligatoire l'application de crème solaire dans les écoles. Des centaines d'experts médicaux ont signé une lettre ouverte appelant les gouvernements des États et des territoires à appliquer cette mesure. Cette initiative vise à réduire le risque de cancer de la peau, notamment le mélanome, principale cause de mortalité par cancer chez les jeunes en Australie. Le ministre de l'Éducation, Jason Clare, a déclaré sur Channel 9 qu'il s'agissait d'une cause qui lui tenait particulièrement à cœur.
I got melanoma a couple of years ago. Probably the result of too much time without sunscreen or a hat in the playground or out on the cricket field. If it wasn't for the fact that I spotted that there was a mole on my leg that was changing colour and I went to the doctor, I might not be here now.
SunSmart affirme que 2 Australiens sur 3 seront diagnostiqués d'un cancer de la peau et que cette maladie tue environ 2000 Australiens par an. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 42. Melbourne, 44. Hobart, 34. Canberra, 36. Sydney, 28. Brisbane, 31. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximale de 42 degrés. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Et bientôt 14 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et je passe maintenant l'antenne à notre collègue Bertrand Tungandamé pour le Journal des Sports.
Dans l'actualité sportive de ce mardi, on commence avec le tennis, avec l'Open d'Australie qui entre dans les quarts de finale. Victoire hier de Sheldon contre Rod en 4 manches, 3-6, 6-4, 6-3 et 6-4. Victoire également de Sinner contre Dardenne en 3 manches, 6-1, 6-3 et 7-6. Tôt ce matin, victoire de Musetti en 3 manches contre Fritz, 6-2, 7-5 et 6-4. Djokovic s'est quant à lui qualifié après le forfait de Mencik. Écoutons nos confrères de RFI revenir sur une affiche alléchante pour les quarts de finale de ce mercredi.
Mercredi, là encore, deux affiches alléchantes.
Yannick Sinner, l'Italien, double tenant du titre, face à l'Américain Ben Shelton, huitième au classement. Et puis le dernier, mais pas le moins attendu de ces quarts de finale, Novak Djokovic, en quête à 38 ans d'un 25e titre en Grand Chelem, un 11e en Australie, à Melbourne, face à l'Italien Lorenzo Musetti, cinquième mondial, mais battu 9 fois sur 10 par le Serbe jusqu'ici. C'est dire s'il mesure le défi qu'il attend.
Playing against Novak is always, you know, challenging, especially here, which.
Jouer contre Novak, c'est toujours un challenge exceptionnel, surtout ici où il a gagné tellement, tellement de fois. Il peut s'adapter à toutes les conditions, à toutes les situations ici. Donc oui, ça va être un match très compliqué. On se connaît très bien, on s'est souvent affronté. Je n'ai gagné qu'une fois, mais j'espère pouvoir prendre ma revanche. La dernière fois à Athènes, il m'a battu. Ça s'était joué à vraiment pas grand chose. Là, je vais avoir une nouvelle chance.
I feel like, I have another chance now.
Et on espère qu'il saura la saisir. Lorenzo Musetti, l'Italien, face à Djoko, mercredi.
Ce soir, le numéro 1 mondial, Alcaraz, jouera contre le numéro 6 mondial, Alex de Minaur, à partir de 19h. Et au football, 4 matchs à l'affiche de la 19e journée de la Ligue 1. Victoire de Strasbourg 4-1 contre l'OSC. Victoire de Toulouse également 2-0 contre Brest. Nantes s'est incliné par 1 but contre 4 à Nice. Match nul entre Paris, FC et Angers. Lyon a battu Metz 5-2. Marseille a battu Lens 3-1. En Premier League, plutôt ce matin, Aston Villa s'est imposé 2-0 contre Newcastle. La veille, Manchester United avait battu Arsenal 3-2. Une victoire que les commentateurs attribuaient au coach. Écoutons par contre un ancien milieu de terrain et capitaine de Man United, Roy Kahn, qui a un avis tout à fait différent.
Même si United gagnait tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, je ne le laisserai pas sur le banc la saison prochaine.
Et pourquoi ?
Je pense qu'il faut une personne avec plus d'expérience. C'est aussi simple que ça. Vu la dimension du club, vu les défis à relever dans les années à venir, il faut un coach capable de gagner le titre. Est-ce que vous pensez vraiment que Carrick en est capable ?
Ce qu'il a fait ces deux derniers matchs, c'est déjà bien.
Oui, mais ça n'est pas suffisant pour moi. On ne peut pas le juger juste après ces deux victoires en deux matchs. C'est votre opinion, mais moi je ne pense pas que ce soit la bonne personne pour remettre le club dans le sens de la marche.
Malgré sa défaite hier, Arsenal reste à la tête du classement du championnat britannique, devant Man City 2e et Aston Villa en 3e place. En cyclisme, Jay Vine de l'équipe UAE Team Emirates a remporté le classement général masculin du Tour Down Under devant Mauro Schmidt et Harry Sweeney. Chez les femmes, Naomi Roeg de l'équipe IF Education Oatly s'est imposée au classement général final suivi de Mavi Garcia et Paula Blas. Vine a décroché sa deuxième victoire du classement général en terminant dans le peloton principal, mais tous les coureurs n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. La dernière étape a été particulièrement mouvementée. Des kangourous ont en effet fait irruption dans le peloton alors qu'il traversait la ville de Stirling. Les animaux ont bondi au milieu du peloton, faisant chuter plusieurs coureurs et blessant certains d'entre eux qui ont dû abandonner la course.
Everyone asks me what's the most dangerous thing in Australia, and I always tell them it's kangaroos. Just two of them blasted through the peloton as we were doing probably 50k an hour, and yeah, one of them stopped, went left, right, and then I ended up hitting its backside.
Heureusement pour Vine, il a pu remporter en selle et sauver sa journée. Écoutons sa réaction.
Everyone asks me what's the most dangerous thing in Australia, and I always tell them it's kangaroos. Just two of them blasted through the peloton as we were doing probably 50k an hour. And yeah, one of them stopped, went left, right, and then I ended up hitting its backside.
Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive de ce mardi. Suite de programme dans quelques instants.
13h et bientôt 23 minutes sur les ondes de radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à la semaine politique et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé et de Patricia Meunier.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Dans notre rubrique « La semaine politique », le Premier ministre australien a finalement décidé de mettre sur pied une commission royale d'enquête sur les questions liées à l'antisémitisme et aux circonstances de l'attentat terroriste de Bondi en décembre 2025. Retour sur un procédé de moins en moins rare avec Patricia Meunier.
Après des semaines de pression politique, le Premier ministre a annoncé récemment la création d'une commission royale d'enquête sur la montée de l'antisémitisme en Australie et sur les facteurs à l'origine de la fusillade mortelle de Bondi Beach du 14 décembre 2025. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire. Pour mémoire, l'attentat commis par deux hommes, proches idéologiquement de l'organisation État islamique, avait fait 15 morts durant les célébrations de Hanouka à Bondi Beach. Depuis, l'Australie a passé l'été austral à débattre d'une solution. Il est donc intéressant de se pencher sur ce qu'est finalement une commission royale. Il s'agit d'une enquête publique indépendante mise en place par le gouvernement fédéral. Ronald Sackville, ancien juge, nous donne quelques explications.
One kind of royal commission is an investigation into something that's gone terribly wrong, like robo-debt, or if there has been a disaster of some kind, the job of the Royal Commission is to investigate, make findings, and perhaps make recommendations that somebody be referred for criminal prosecution. The second category are policy-oriented royal commissions, like the Disability Royal Commission.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud mène déjà sa propre enquête suite à la fusillade, tout comme la police fédérale australienne. Ces enquêtes seront intégrées à celles de la commission royale que gère le Commonwealth. On écoute à ce sujet Jill Shepherd, professeure de sciences politiques à l'Université nationale australienne.
Responding quickly in a way that shows voters and citizens that you are serious about this, but also not having to come up with a solution straight away. So they kind of kick the can down the road of having to deliberate and come up with, you know, policy suggestions, or, you know, in the worst case, and this happens more at the state level because of the nature of state royal commissions, you know, sometimes criminal prosecution.
Une commission royale constitue la forme la plus élevée d'enquête sur des questions d'intérêt public. Elle est organisée dans le cas de circonstances rares et exceptionnelles. Scott Prosser, ancien conseiller politique, relève le caractère de moins en moins rare de ces commissions.
Since 2013, we've had 13 sort of royal commissions, okay? So we've had an increase in federal royal commissions, okay? Happening. And I think that's a reflection that, you know, Royal Commissions is the institution you turn to when you run out of institutions to review things independently. I call it the institution of last resort.
La commission royale devra rédiger un rapport final suite aux diverses audiences et aussi formuler une série de recommandations à adopter en matière de politique notamment. En principe, le gouvernement qui convoque la commission est généralement responsable de la mise en œuvre de ses conclusions. Un premier rapport intérimaire de la commission royale sur l'antisémitisme et la cohésion sociale est attendu en avril prochain.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h30 minutes sur les ondes de radio SBS. Et maintenant, un retour sur Australia Day avec ce reportage de notre collègue Bertrand Tungandamé.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Australia Day a été marqué à travers le pays par des cérémonies de citoyenneté et la remise de prix Australia Day Awards. La journée a également été observée par les peuples aborigènes et insulaires du Détroit Torres qui se sont rassemblés dans tout le pays pour des événements annuels commémorant le 26 janvier, y compris des manifestations marquant ce qu'ils qualifient de jour de l'invasion ou Invasion Day. Le Premier ministre Anthony Albanese a accueilli les nouveaux citoyens du pays lors de la cérémonie annuelle de levée du drapeau et des citoyennetés à Canberra en cette journée de Australia Day. Appelant à l'unité, le Premier ministre a déclaré que Australia Day est l'occasion de réfléchir à la raison pour laquelle nous avons tous la chance d'appeler l'Australie notre foyer.
Because at the very heart of the pledge that you make today, to our laws, to our values, and to our people, is the respect for our common humanity that defines Australia. Love, not hate, hope, not fear, optimism, not negativity, and indeed, unity, not division.
Un peu plus de 20 000 personnes originaires de plus de 150 pays sont devenues citoyens australiens ce 26 janvier 2026 lors de l'une des 325 cérémonies de citoyenneté organisées à travers le pays. Avec près d'un tiers de la population née à l'étranger, soit environ 8,6 millions selon le Bureau australien des statistiques, l'ABS, l'Australie est l'un des pays les plus multiculturels au monde. Farkonda Ahmadi, un réfugié en Australie qui a fui l'Afghanistan suite à la crise de 2021, s'est entretenu avec SBS Pashto en marge de sa prestation de serment pour l'obtention de la citoyenneté australienne.
Australia Day for me is a day of reflection more than celebration. As a someone who came to Australia as a refugee, I have learned that this day holds deep pain for First Nations people. Understanding that has changed my perspective. It reminds me that belonging also means listening, learning, and respecting the truths of this land's history. For me, Australia Day is about gratitude and responsibility. Gratitude for the opportunities I have been given. And responsibility to stand with respect for those whose land this is.
On rappelle que Australia Day est devenu un jour férié national en 1994, mais ces dernières années, les appels se sont multipliés pour changer la date du 26 janvier. En effet, depuis 1938, le peuple des Premières Nations marque le 26 janvier par une manifestation qu'ils appellent « Jour des deuils » ou « Day of Mourning ». Aujourd'hui, des milliers de personnes ont participé à des rassemblements concurrents à travers le pays, y compris des manifestations pour la journée de l'invasion ou « Invasion Day ». Au site de protestation Camp Sovereignty de Melbourne, le porte-parole de Black People's Union, Kieran Stewart Ashton, a déclaré aux personnes rassemblées qu'il est primordial de connaître l'histoire réelle du peuple premier de l'Australie.
I want to really stress that, you know, you need to know your place and where you are. You're on stolen, unceded lands. So, you know, does that mean, do you even know the Aboriginal nation whose land you're actually living on and what happened there? If not, go and do the research, learn the truth about the dark history of this colony, but don't just stop there. Actually engage with the campaigns and the initiatives of your local mob and support them.
À Sydney, 1500 policiers avaient été déployés pour surveiller les manifestations. Ned Hargrave est l'un des intervenants dans un des rassemblements de Sydney. Walker, son petit-fils, a été mortellement abattu de 3 balles par l'agent de police du territoire du Nord, Zachary Rolfe, à Yuendumu le 9 novembre 2019. Ayant perdu 2 membres de sa famille en détention, M. Hargraves a saisi l'opportunité pour appeler les gens à réfléchir sur la souffrance que les populations autochtones continuent de subir.
We have lost, we have suffered so much, that you and I, Yapa, we have how much more longer we have got to.
Des grandes villes australiennes ont également attiré des rassemblements dits « March for Australia » ou « Marche pour l'Australie ». Les participants à ces manifestations expriment leur inquiétude face à l'immigration, à la hausse du coût de la vie et à ce qu'ils qualifient de montée de sentiments anti-australiens. Ce manifestant explique pourquoi il juge important de participer à la « Marche pour l'Australie » à Melbourne.
« Then we've got to ask someone else's permission to say what we need to say. That's not Australia. »
I love my country very much, and I see it slowly dying. Freedom of expression, which is an Australian thing for me. I love everyone from all over the world, but please look after Australia first. That's all I wanted to say. That's why I'm here.
Cette année, Australia Day intervient également juste après l'attaque de Bondi. Des touristes et des habitants locaux se sont réunis sur le site de l'attaque dans un acte de recueillement mais aussi de célébration rendant hommage aux 15 victimes tuées lors de l'attaque du 14 décembre autour d'un mémorial improvisé. Ce reportage a été produit par Brianna Charles de la salle de rédaction de la SBS et traduit en français par Bertrand Tungandamé pour SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les étés australiens se transforment sous l'effet de vagues de chaleur provoquées par le changement climatique. Reportage de SBS News. Les étés australiens subissent ce que les scientifiques appellent une transformation totale, selon une nouvelle étude de World Weather Attribution, révélant que le pays peut désormais s'attendre à des vagues de chaleur en moyenne tous les 5 ans et qu'il est urgent que le pays s'adapte à ces nouvelles conditions. Cet avertissement intervient alors que les États du sud-est du pays subissent une vague de chaleur prolongée et intense, devenant de plus en plus fréquente et extrême. La professeure Sarah Perkins Kirkpatrick, climatologue à ANU, et l'une des auteurs du rapport, affirme que la vague de chaleur est préoccupante étant donné qu'elle survient pendant la Niña, qui signale généralement des températures plus fraîches.
During La Niña summers, we do expect to see less heat waves and virtually none that are on that extreme end of heat waves. This particular heat wave was classified as an extreme heat wave in some regions of Australia, so it is exceedingly rare to see an event like this during a La Niña summer.
L'étude révèle que des vagues de chaleur atteignant des températures de plus de 40 degrés peuvent désormais être attendues en Australie en moyenne tous les 5 ans au lieu de 4 fois par siècle, comme c'était le cas avant le réchauffement climatique d'origine humaine. Avec un réchauffement climatique supplémentaire de 1,3 degré, niveau qui devrait être atteint d'ici la fin du siècle selon les politiques actuelles, la probabilité et l'intensité de tels événements devraient continuer d'augmenter, triplant de probabilité. Les chercheurs affirment que ces résultats soulignent l'urgence pour l'Australie de réduire ses émissions et d'adapter ses politiques à ces conditions de plus en plus extrêmes. La professeure Kirkpatrick ajoute que changer la perception du public est également nécessaire.
I think we need to go a long way in changing the public perception towards extreme heat if we are serious about mitigating and protecting ourselves from them. It's not to say it's not possible, there are many ways we can do this. But we do need to shift our attitudes to take them more seriously.
Le porte-parole du Centre de contrôle du Victoria, David Nugent, affirme que la vague de chaleur pourrait alimenter une nouvelle série de feux de brousse et aggraver ceux qui font actuellement rage. David Nugent exhorte la population à rester informée et à se préparer à l'avance aux conditions extrêmes.
You know, a really important message for our community is to understand that people will need to make sure that they look after themselves, and looking after family, neighbours, people staying as cool as they can, making sure that they're hydrated, and just checking in on all those people around them as well.
Les auteurs du rapport de l'Organisation mondiale de la météo qualifient la chaleur de tueur silencieux en Australie. Les vagues de chaleur causant plus de décès que les inondations, les feux de brousse, les cyclones et les tempêtes. Le professeur Holly Jay, directeur du Centre de recherche sur la chaleur et la santé à ANU, affirme que la chaleur peut contribuer à de nombreux problèmes de santé graves.
People get hospitalized for a variety of different reasons. Heat exhaustion, but often cardiovascular complications, so people with heart disease and having heat-related complications due to that, and also people with kidney disorders. People with respiratory disorders, so lung disease, also struggle in the heat.
Le professeur Jay affirme que les facteurs de risque sont également aggravés par les difficultés économiques.
What we know is that a lot of the people who have the primary physiological or biological risk factors, particularly when they're combined, so elderly with different types of chronic diseases, often those conditions are more prevalent in people who are living on a lower income, and often they don't have access to air conditioning, or indeed they might own an air conditioner, but they're concerned about how expensive the bill is going to be at the end of the month, so they choose not to use it. And those are the people that are particularly at risk.
Il affirme qu'un ventilateur électrique peut constituer une solution efficace et économique jusqu'à environ 40 degrés Celsius. Mais au-delà de 40 degrés, les solutions de refroidissement les plus économiques sont différentes.
Fans flip from being beneficial to detrimental, so they actually accelerate body heating. They amplify the level of physiological heat strain that people experience. So we advise that when the air temperature is above 40 degrees Celsius, that people shouldn't use fans. So applying water to the skin surface is an exceptionally effective way at limiting the physiological strain that people experience when they're exposed to the heat. And this works really well even above 40 degrees Celsius.
Ce reportage de Angelica Waite pour SBS News a été présenté par Jean Meldukas pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h45 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à la programmation de la rentrée 2026 de l'Alliance française de Sydney. Et vous êtes en compagnie de notre collègue Bertrand Tungandamé.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Il est temps de parler de la programmation de l'Alliance française de Sydney en cette rentrée 2026 avec Monsieur Denis Morandet, le directeur de l'Alliance française de Sydney. Monsieur Morandet, bonjour et bienvenue sur SPS Audio.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Nous nous entraînons en cette rentrée 2026. Parlez-nous de ce qui est prévu pour cette rentrée. Je dirais pas comme les autres, parce que c'est une toute nouvelle année.
À l'Alliance, il y a toujours deux aspects, hein. Il y a l'aspect éducatif et l'aspect culturel. L'aspect éducatif est déjà bien lancé, puisque nous avons eu la rentrée des adultes la semaine dernière. Une très très bonne rentrée, nous avons plus de 700 étudiants. Nous avons lancé des nouveaux cours sur les régions de France, sur l'univers de Chanel, la mode sous Marie-Antoinette. Donc les cours ont très bien fonctionné, les étudiants ont répondu présents. Et puis sinon, il y a tout le pendant culturel, je dirais, avec différents événements, notamment le 5 février, le premier philo bistrot de l'année.
Et philo bistrot cette année, qu'est-ce qu'il y a de très particulier? Je crois que vous avez la participation d'une cinéaste ou d'un cinéaste australien.
Tout à fait. Nous allons accueillir Samantha Lang. Donc Samantha est une habituée de l'Alliance, une amie de l'Alliance, puisqu'elle était ambassadrice du Alliance française French Film Festival il y a quelques années. C'est une réalisatrice australienne renommée et donc elle viendra le 5 février à partir de 18h30 pour discuter un petit peu de cinéma australien et français avec notre présentateur Olivier Vogetta et Philo Bistrot, donc différents sujets, liberté artistique, la narration, les réalités du cinéma aujourd'hui, cinéma indépendant, cinéma commercial, donc une soirée qui promet d'être riche en cinéma et en culture.
Et une soirée qui tombe au point, parce que dans quelques jours, un peu plus tard, c'est en fait l'Alliance française Film Festival, l'un des festivals du film français le plus grand au monde, me dit-on.
Oui, tout à fait. Alors l'Alliance française French Film Festival, c'est le festival du film français le plus grand, le plus important hors de France. Donc il est organisé dans toute l'Australie. Hein. L'année dernière, on a atteint les 200 000 spectateurs sur 5 semaines, donc c'est un énorme événement. À Sydney, il démarrera déjà le 5 février avec la mise en vente des billets, et ensuite le 3 mars avec l'Opening Night Gala, donc l'opening national, qui cette année sera très prestigieuse. Nous allons très prochainement annoncer une jolie surprise sur nos réseaux sociaux, donc si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook et Instagram, c'est le grand moment de nous rejoindre. Mais voilà, une surprise prévue pour le 3 mars et l'Opening Night Gala.
Donc avec, je suppose, un grand réalisateur ou un grand artiste, un grand acteur venu directement de France, je crois.
Le mois de février va être riche en révélations, donc je ne vais pas gâcher la surprise maintenant. Mais voilà, nous avons une réalisatrice australienne, une star montante, qui est l'ambassadrice de notre festival cette année. Et nous allons avoir une programmation, encore une fois, très très riche, quasiment une quarantaine de films, plus de 6000 séances à travers toute l'Australie. Donc il y en aura pour tous les goûts pour cette nouvelle édition de l'Alliance française French Film Festival.
Un festival qui connaît de plus en plus de succès d'ailleurs, parce que les Australiens raffolent du cinéma français. Mais aussi, pas seulement du cinéma français, mais aussi de la culture et de la littérature française et francophone. Et vous avez, en ce mois de janvier, je crois, aussi un book club.
Tout à fait. Alors c'est vrai que les Australiens sont extrêmement francophiles et c'est une grande chance pour les alliances et un vrai plaisir. Et donc le 27 janvier, pour nos membres, nous organisons un book club. Autour du roman Petit Pays de Gaël Faye. Donc c'est un roman en partie autobiographique. Il évoque son enfance au Burundi, sa vie avec une identité un petit peu multiple entre différentes cultures, des racines rwandaises, et puis une vie qui a été très riche. Hein. Gaël Faye, il était trader à Londres, il a été rappeur, il a été romancier, il a publié donc chez Grasset. Donc voilà, on va étudier un petit peu et discuter de ce livre le 27 janvier à l'Alliance.
Est-ce que l'auteur sera là pour que les gens puissent acheter des copies et venir les faire signer par l'auteur?
Gaël Faye ne sera pas présent, mais par contre, si vous êtes membre de l'Alliance, vous pouvez assister à la discussion au book club à partir de 13h30. Donc c'est vraiment un événement qui est réservé à nos membres le 27 janvier.
Et pour les fines bouches, vous avez une boulangerie. J'ai habité Sydney pendant très très longtemps. Et avant mon départ, il n'y avait pas encore cette boulangerie Whole Grain. Est-ce qu'il y a une nouveauté pour 2026, juste à tout hasard par rapport...
Alors pas pour 2026, il y en a très souvent parce que Whole Grain Bakery est un partenaire très actif. Oui. Ils sont vraiment très créatifs. Leur spécialité, c'est le sans gluten. C'est relativement rare dans le CBD de Sydney. Donc, ils ont un vrai public d'amateurs, d'amatrices et de passionnés. Mais ils sortent régulièrement des nouveautés. Donc, on avait des chouquettes qui étaient délicieuses. Et là, ils ont sorti des cinnamon scrolls qui sont tout aussi savoureux. L'avantage avec eux, c'est que oui, toutes les 5-6 semaines, il y a des nouveautés en vitrine, donc il n'y a pas de lassitude pour les gourmands.
Oui, c'est une occasion de pouvoir visiter l'Alliance. Voilà, Monsieur Morandé, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter la programmation de l'Alliance française de Sydney en cette rentrée 2026.
Ben, c'était un grand plaisir. Je termine juste avec une toute petite note. Nous allons organiser une nouvelle série d'événements qui s'appelle French Success Stories. Et l'objectif, c'est de mettre en avant des projets franco-australiens plutôt inspirants et donc de célébrer tous ensemble ces success stories qui rapprochent les cultures. Suivez-nous sur nos réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour être au courant des dernières nouveautés. Et si vous êtes sur le site, si vous êtes membre ou sur la newsletter, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et aussi, ne manquez pas de nous parler des différents projets pour que nous puissions aussi en parler davantage à nos auditeurs sur SBS Audio.
Avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et en fin d'émission, on passe à un rappel des titres du journal de ce mardi. Les services d'urgence se préparent à des conditions extrêmes dans tout l'état du Victoria, des incendies menaçant des habitations alors que les températures devraient atteindre 45 degrés à Melbourne et à Geelong et 49 degrés à Mildura. En France, les députés votent un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. et à l'Open de l'Australie. À l'Open d'Australie, on vient de l'apprendre, la Biélorusse Arina Sabalenka a éliminé l'Américaine Iva Jovic en quart de finale 6-3, 6-0. Et voilà, avec Yannick Noah, on se quitte. Todo está bien, fin de l'émission. Bel après-midi, à bientôt sur SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.